on est la radio du lycée du Couserans, ou RDLC pour les intimes. Avec notre nouvelle équipe de cette année au complet, on a décidé de réaliser notre première émission sur le thème de l'Ariège. On trouvait ça intéressant de connaître le rapport que les gens ont avec leur lieu de résidence et aussi de comprendre comment il a pu influencer leur vie. Vous êtes prêts pour un voyage au plein cœur de nos montagnes ? Bienvenue !
Bonjour, c'est Noémie, je vais vous parler de l'histoire de l'Ariège. L'Ariège a été habité dès la préhistoire. On trouve les traces des premiers habitants humains il y a environ 300 000 ans, dans les grottes des Pyrénées. Ces hommes vivaient de la chasse et de cueillette. Plus tard, les sites comme la grotte de Nio ou celle du Mastasil révèlent de magnifiques peintures témoignant d'une culture développée. Vers 700 avant notre ère, des tribus celtes peuplent l'Ariège. Ces peuples développent des techniques d'agriculture et d'artisanat et la région devient un centre d'échange prospère, notamment grâce à sa situation entre l'Aquitaine et la Méditerranée. L'Ariège a été profondément marqué par le tatarisme, une doctrine chrétienne qui rejetait le clergé et prônait une vie austère. Cette croyance se développe notamment à Montségur, une place forte devenue un symbole de la résistance tatare. En 1244, le château a été assiégé, marquant la fin de l'époque tatare dans le sud-ouest. Les guerres de religion entre protestants et catholiques laissent des traces en Ariège, où la résistance protestante se forme. En 1621, Pamiers devient protestant, mais les troupes royales interviennent pour établir l'autorité catholique. Le pays connaît alors des périodes de violence, de persécution et d'instabilité. Lors de la Révolution, l'Ariège devient officiellement un département en 1790. Les idées révolutionnaires prennent racine et les biens de l'Église sont confisqués. Cependant, cette période est marquée par des tensions et la résistance de nombreux habitants fidèles à la monarchie et au clergé. Au XIXe siècle, l'Ariège connaît un important développement industriel, notamment vers les mines de fer et de plomb. La vallée du Vic de Sauce devient un centre industriel prospère, attirant des ouvriers de toute la France. Les forges et les usines transforment le paysage et les modes de vie. L'Ariège est également marqué par la Seconde Guerre mondiale. Les montagnes et les forêts offrent un refuge aux résistants qui combattent les forces d'occupation. La région devient un haut lieu de résistance et de solidarité avec de nombreux passeurs aidant les personnes persécutées à rejoindre l'Espagne. Après la guerre, l'Ariège souffre au tourisme. La création de stations de ski dans les Pyrénées attire de nombreux visiteurs. Les sites naturels comme le lac du Batzmal et les grottes préhistoriques deviennent des destinations touristiques populaires. Cependant, l'industrie de l'agriculture décline et les jeunes partent faire leurs études sans revenir, ce qui entraîne une baisse de la population.
Après cette présentation de l'Ariège, nous allons directement plonger au cœur de ce milieu rural en interviewant Françoise Estac, une ariégeoise de naissance attachée à ses origines. Nous nous intéresserons à son point de vue sur certaines questions polémiques des milieux ruraux, mais aussi à son expérience d'ariégeoise tout au long de sa vie. Bonjour Françoise, je m'appelle Ilja et j'aimerais savoir quand êtes-vous née.
Alors je suis née, bonjour d'abord, et bravo pour votre radio, c'est très bien. Je m'appelle donc Françoise Estac et je suis née en 57, pardon, et je suis née à Saint-Girons.
Bonjour madame, moi c'est Sacha et j'aimerais savoir dans quel contexte familial avez-vous grandi.
Alors bonjour Sacha. Donc je suis née à Saint-Girons à l'hôpital, mais j'ai habité à Seix, un petit village au-dessus de Saint-Girons. Et j'avais un papa qui était maçon, une maman qui était à la maison parce que j'avais une sœur handicapée, elle s'occupait d'elle à 100%.
Et combien avez-vous de frères et sœurs par curiosité ?
Ben, j'avais qu'une sœur qui est maintenant décédée et qui avait 9 ans de plus que moi, mais j'étais la petite dernière, voilà.
Quel est votre parcours scolaire et est-ce que vous avez fait des études ?
Alors oui, bien sûr et heureusement, je dirais, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir un métier que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fait 7 ans ici, dans ce lycée du Couserans. J'ai fait mon collège et mon lycée. Et j'ai eu un bac scientifique et ensuite je suis partie à Toulouse pour faire des études. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire au début. Donc j'ai commencé par, sur les conseils de mon prof de maths, un IUT informatique. Ça ne m'a pas du tout plu. Au bout d'un an, j'avais des résultats très bien, mais j'ai arrêté. Et j'ai fait archi, parce que mon père était maçon et que je pense que j'avais envie de continuer un peu ça. Et ça m'a plu, mais je ne savais pas trop si c'était vraiment une passion. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était le vivant, finalement. Et du coup, j'ai fait en parallèle des études de biologie et j'ai fait une maîtrise d'écologie.
Bonjour madame, quel est votre métier ?
Mon métier, c'était professeur de biotechnologie, santé, environnement. Il y a biotechnologie, option biochimie, je crois que vous avez une section ici. Et il y a biotechnologie, option santé, environnement. Pour transmettre tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable, on dirait maintenant. Les pollutions de l'eau, de l'air, la gestion des déchets, le bruit, l'énergie, tout ça. Voilà, ça a été ma carrière, j'ai enseigné ça toute ma carrière, pendant 35 ans.
Bonjour Françoise, moi c'est Lisa. J'aimerais savoir comment il était le collège-lycée à votre époque.
De midi à deux, on jouait au tarot, ça c'était bien. Mais nous, on avait le temps peut-être, on avait un peu moins la pression que vous maintenant. Oui, moi j'étais demi-pensionnaire donc, oui, voilà. Vous voulez une anecdote ? J'étais amoureuse du fils de l'intendant qui avait un appartement de fonction et qui apparaissait à son balcon de temps en temps. Et dès midi à deux, on se faisait des petits coucous. Voilà. Et j'avais une prof de français qui nous avait fait faire une pièce de théâtre. Je ne me souviens plus exactement le titre de la pièce, mais elle nous avait mis mari et femme dans la pièce. C'était gentil. Voilà mes souvenirs du lycée. Pour moi, c'était une libération d'être au lycée ou au collège. Plutôt que chez moi, parce que ce n'était pas toujours gay chez moi.
Bonjour, moi c'est Luna. Est-ce que vous vous considérez ariégeoise ?
Oui, je me considère ariégeoise, oui. Après, c'est très, très ambigu comme notion, parce que voilà, on est né quelque part, donc je suis née dans l'Ariège. Je suis partie à cause du travail pour... Comme tout exode rural, je suis née dans un village et il n'y avait pas de travail pour moi. Donc je suis partie et je suis revenue en Ariège à la retraite. J'aime la liberté que je ressens quand je me balade dans les bois ou dans la montagne. C'est là que je respire, quoi. Voilà. Que je respire le mieux.
Alors moi c'est Mathéo et j'aimerais savoir quel est votre rapport avec l'Ariège.
C'est un rapport un peu compliqué dans la mesure où... je suis revenue dans l'Ariège après des années d'absence. J'ai des rapports avec les gens qui sont assez difficiles pour certains, parce que quand on revient dans l'Ariège et qu'on est parti, on a du mal à se réintégrer, on va dire, avec les vrais Ariégeois, entre guillemets, qui sont restés. Et donc, j'ai beaucoup d'amis ici, actuellement, qui ne sont pas des Ariégeois de souche, mais qui sont plutôt des gens qui ont choisi d'habiter en Ariège, pas d'y naître. Et donc, ce n'est pas un rapport simple parce que pour les vrais Ariégeois, je suis un peu une, entre guillemets, il ne faut pas exagérer, mais un traître, quoi, quelqu'un qui a quitté le pays et qui est revenu après pour profiter, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein, du bien-être. Et de l'autre côté, par rapport à ce qu'on appelle ici les néo-ruraux, je déteste ce nom-là parce que. C'est pas vrai, c'est des gens qui sont intégrés, puisque ça fait 40 ans, certains qui sont là, donc ils sont aussi ariégeois que moi. Ils ont vécu en Ariège, ils ont fait évoluer l'Ariège, ils y ont apporté plein de choses. Et donc ces gens-là, ils ont besoin d'une reconnaissance. Et donc ils sont pas non plus. C'est pas facile de s'intégrer dans ce milieu de, entre guillemets, néo-ruraux quand on est ariégeois, avec l'accent que j'ai. Et avec le fait que j'ai vécu toujours ici, il y a une espèce de méfiance, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas des rapports très simples. Mais j'adore discuter et faire évoluer mes pensées et les pensées des autres par rapport à ça.
Merci à Françoise de son intervention. Maintenant, changeons d'âge.
Et passons au plus petit, et plus précisément à la rencontre des élèves de Caumont.
Bonjour, tu t'appelles comment ?
Loan.
June.
Lison.
Mathéo.
Loan.
Arthur.
Comment est l'Ariège pour toi ? Tu peux la décrire avec tes propres mots.
Je trouve ça très bien, il y a beaucoup de nature. Après, il y a aussi des villes, j'aime beaucoup. Pour moi, l'Ariège, c'est un simple département avec plein de petits villages et qu'on peut appeler le 09.
Il y a des tonnes de forêts, c'est bien.
C'est un endroit, des plaines, quelques plaines pas très grandes, des plateaux et pas beaucoup de montagnes.
Et si tu devais choisir un seul mot pour représenter l'Ariège, ce serait lequel ?
La nature.
Naturel.
La campagne.
Grand.
Simple. Bien.
Si tu devrais choisir un seul animal pour décrire l'Ariège, ça serait lequel ?
Le cerf.
Un hibou ou une chouette.
Pourquoi ? Pour des raisons particulières ?
Oui, parce que déjà j'en ai un à côté de chez moi. Il y a beaucoup de souris en Ariège et je me dis que les hiboux c'est l'idéal.
Tu pourrais nous limiter ? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre en Ariège ?
Jouer au rugby avec mon chien.
J'aime beaucoup aller me baigner dans des lacs, aller faire des randonnées. J'aime bien aller en forêt, aller à la montagne, chasser, pêcher, faire du vélo.
Tu connais des histoires ou des légendes de l'Ariège ?
Je connais et une légende qui où c'est une sorcière qui s'était plongée dans le lac de Batmal.
Oh. Ah oui, tu en connais plus sur cette légende ?
Que cette sorcière, elle est de la même couleur de l'eau, donc que c'est très difficile de la voir.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ne connaissent pas bien l'Ariège ?
De se promener, de chercher des champignons, ce genre de trucs.
Que c'est très naturel, il peut faire froid ou chaud, c'est très varié en fonction des jours. L'automne, je trouve que c'est très très beau. Parce que l'automne, c'est très beau parce qu'il y a plein de couleurs dans les feuilles des arbres.
Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un qui n'est jamais venu en Ariège ?
Si on est en été, d'aller se baigner et faire des randonnées. Si on est en hiver, plutôt aller dans les montagnes pour faire des jeux de neige comme le ski.
Moi, s'il y avait un touriste qui arrivait en Ariège, je lui dirais d'aller voir le marché de Saint-Géron.
Est-ce que pour toi, il y a un accent en Ariège ?
Oh non, je trouve pas.
Oui.
Et tu penses l'avoir ?
Non.
Jamais remarqué parce que tout le monde parle un peu de la même façon.
T'es jamais allée en dehors de l'Ariège ?
Si, je vais tous les lundis et les mercredis en Haute-Garonne parce que je fais du basket à Salis.
Et les gens, ils parlent pas différemment qu'en Ariège ?
Pas vraiment.
Toi, non. Tu penses que tu as un accent ?
Peut-être. Je sais pas.
Et tu serais triste de quitter l'Ariège ?
Bah, un peu parce que c'est un peu là où j'ai passé tous mes souvenirs que j'ai beaucoup aimés. De quand j'étais toute petite, bah, j'ai passé toute ma vie en Ariège.
Donc t'aimes bien l'Ariège, t'y es attachée ?
Oui.
T'aimerais vivre où, toi, si t'avais le choix ?
Ça aurait été bien une maison en Ariège et une maison en Alsace.
À Londres.
À Londres ? Il y a quoi à Londres qu'il n'y a pas ici que t'aimerais ?
Bah, le grand pont.
Après avoir écouté la jeunesse ariégeoise, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de l'interview de Françoise Estac.
Bonjour, moi c'est Wendy et ma question c'était comment concevez-vous la présence de l'ours dans l'Ariège ?
C'est crescendo vos questions. La présence de l'ours dans l'Ariège, moi, pour moi c'est une évidence. Voilà, c'est une espèce qui était là avant nous. Ça serait bien prétentieux pour moi de dire je veux pas d'ours dans l'Ariège. Mais j'ai conscience aussi qu'il y a des gros traumatismes. Par exemple, de bergers, hein, il y a des bergers qui sont traumatisés par des dérochements de troupeaux entiers, 200 brebis qui tombent parce que l'ours les a effrayés. C'est sûr que c'est un sacré traumatisme. Et je le comprends, d'autant plus que je connais beaucoup de producteurs, d'éleveurs ici. Je leur achète leurs produits avec grand plaisir et je le déguste avec grand plaisir aussi. Je me souviens de, par exemple, le fromage d'Élodie au marché de Souex. Ben, son troupeau, il a été tué, enfin, il a dérouché, il a perdu 200 brebis. D'où, eux, je comprends qu'ils aient une certaine haine de l'ours. Mais ce que je peux dire de plus, à mon avis, de plus constructif, c'est que je conseille à tout le monde de lire le livre de Clara Arnaud, que j'ai lu et qui m'a fait évoluer, et qui fait certainement évoluer les pensées de chacun, même des bergers, je pense, parce qu'il est très documenté. Alors, c'est un livre qui s'appelle...
C'est « Vous passerez comme des vents fous », je crois.
Voilà, « Vous passerez comme des vents fous ». Clara Arnaud, je vous conseille vraiment ce livre. Il est... Voilà, il crée des nuances dans ce débat stérile de pour ou contre l'ours, parce que voilà, c'est difficile de dire qu'on est pour et c'est difficile de dire qu'on est contre. Et elle donne tous les éléments pour se faire une opinion nuancée. Voilà. Après, mon opinion personnelle, je vais quand même la dire. Je pense qu'il y a des moyens de mettre en œuvre une cohabitation entre l'ours et les bergers et les promeneurs. C'est déjà le cas dans les Alpes pour le loup. Bon, on peut arriver à trouver des moyens de cohabitation. C'est ma conviction.
Bonjour Françoise, Rémi. Aimez-vous que l'on remarque votre accent ?
Bonjour Rémi. Bonjour. Oui. Oui et non. Toujours pareil, on va nuancer. Oui. Oui, quand je ressens que ça amuse et que ça plaît. Et là, je sens que c'est sincère et tout, mais que c'est un truc chantant, joyeux, etc. J'ai oublié, Étienne, tout à l'heure, de dire que si j'étais attachée à l'Ariège, c'est aussi parce que l'Ariège, elle a une langue. Et la langue, c'est l'occitan. Et mon père, il parlait patois. Et pour moi, c'est pas péjoratif. Et c'est une langue qui a bercé mon enfance et que j'ai dans l'oreille, quoi. Je vais vous raconter une anecdote à ce propos. J'avais une collègue allemande, quand j'étais à l'IUFM à Toulouse, qui travaillait tous les jours avec moi. Et un jour, je lui ai dit, si tu m'as besoin, tu me le dis. Elle me dit, mais comment tu parles français, toi ? Tu m'as besoin, c'est pas français. Ça vient de l'occitan, en fait, c'est pas le même auxiliaire qui est utilisé. On dit, c'est ma besoin, si tu as besoin de moi. Et voilà, en français, il faut dire, si tu as besoin de moi. Le de moi, il est après, mais en occitan, il est avant. Mon père, il disait, je serais été content de te voir. Parce que ça venait de l'occitan, et pour lui, ça se construisait comme ça. On ne disait pas « j'aurais été content de te voir ». On disait « je serais été content ». Et une autre anecdote là-dessus, c'est qu'un homme politique que je ne citerai pas, un jour s'est moqué d'une dame qui lui posait une question, avec l'accent du sud-ouest, une question pertinente et qui l'a bien mis en difficulté. Et il lui a répondu avec mépris « vous pouvez répéter en français, s'il vous plaît ?» Ça, c'est un truc qui n'est pas passé, là. Je l'ai... en travers de la gorge. Voilà.
Après avoir demandé à Françoise ce qu'elle pense de la présence de l'ours et la son ariégeois, nous allons écouter l'avis des lycéens sur le sujet.
Bonjour Alicia.
Bonjour.
Quel est ton point de vue sur l'Ariège ?
Je trouve que c'est une bonne région. Même s'il n'y a pas tellement de choses à faire, c'est bien quand même. Enfin, je suis née ici et je trouve que c'est un bon département. Mais je ne pense pas rester habiter là, enfin, pour les études et tout ça, car c'est un peu compliqué. Mais plus tard, je reviendrai pour ma famille et tout ça, et puis, parce que c'est bien. Enfin, ça dépend.
Est-ce que tu voudrais t'installer en Ariège après tes études ?
Non. Non, parce que je préférerais voyager ou habiter dans une grande ville ou quoi.
Quels sont les inconvénients et les avantages que tu trouves au fait d'habiter en Ariège et d'y vivre ?
Souvent, pour certaines villes, c'est un peu isolé quand même. Souvent, c'est loin des grandes villes, tout ça. Après, il y a des avantages. Enfin, c'est bien, il y a des avantages d'habiter en campagne et tout ça, mais il y a des désavantages. Enfin, c'est loin un peu des, par exemple, des activités en général, tout ça.
Et c'est quoi les points positifs du coup que tu trouves en Ariège quand tu dis c'est une bonne région et tout, c'est quoi qui te fait aimer ?
Il y a plusieurs trucs, genre il y a la montagne, tout ça, c'est calme et tout ça.
Qu'est-ce que vous pensez de l'Ariège et comment vous vous y sentez, Lara?
C'est un très beau département. On peut penser qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je pense qu'il y a quand même une variété de choses possibles à faire en Ariège. Au niveau touristique, je pense que le potentiel n'est pas assez exploité. On a plein d'endroits à voir. L'hiver, par exemple, on a les stations de ski. On a plein de monuments, le château de Foix, la grotte du Mas d'Asie, le palais des évêques à Saint-Nizier. Donc je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus... De tourisme en Ariège. Et puis moi, je suis née en Ariège, donc pour moi, c'est un beau département qui a du potentiel, mais qui le potentiel n'est pas encore exploité à 100%, je pense.
Que pensez-vous de votre accent ariégeois et quel est son impact sur votre vie sociale ou scolaire?
C'est une très bonne question. Alors, pour moi, déjà, mon accent, moi, à la maison, on m'a toujours dit que c'était une fierté. J'ai toujours grandi en étant fière de cet accent et sans jamais, le perdre ni rien. On m'a même incité, à le garder. Par contre, ça a eu quelques impacts, des impacts pour quelques entretiens. Donc, par exemple, je suis allée passer un entretien avec une école, donc je tairai le nom parce que je ne veux pas ternir sa réputation. Et en fait, je parlais d'un sujet tout à fait, qui à mon sens était intéressant et qui était le sujet demandé par l'école. En fait, il faut savoir que les jurys qu'on avait en face n'étaient pas des professeurs, c'était des chefs d'entreprise. Donc moi, j'avais le chef d'une entreprise de bétonnière. Et à la fin de... qui me coupe dans mon oral alors qu'il n'avait pas... il n'était pas censé le faire, pour me demander d'atténuer mon accent. Donc au début, je me suis dit qu'il comprenait pas ce que je disais à cause de mon accent. Donc je lui ai demandé, et j'ai quand même l'impression d'être... qu'on peut comprendre ce que je dis. Et à la fin, il a fini par dire que mon accent rendait mon propos trop risible, pas assez sérieux, alors que pourtant c'était un sujet tout à fait sérieux. Et il a fini très gentiment par me dire que mon accent c'était un ancrage territorial trop marqué et que de toute façon je ne ferais jamais les études que je voulais, que je resterais en Ariège et que je ne ferais jamais rien d'autre. Et ensuite, j'ai eu d'autres retombées sur ça. En français, par exemple, une fois, une professeure de français m'a enlevé 2 points sur un poème que je connaissais par cœur, parce mon accent, à cause de mon accent. Donc, moi, j'en suis fière, mais je trouve qu'il y a des impacts qui sont des fois négatifs. Je ne pense pas que c'est de ma faute, je pense que c'est la faute des gens en face qui d'après moi, ne sont pas assez intelligents pour pas juste se bloquer, qui se bloquent au fait qu'on ait un accent.
Bonjour Sacha.
Bonjour.
Est-ce que tu es né en Ariège?
Non du tout, moi je suis arrivé il y a combien de temps maintenant? 1 an et demi, et je suis originaire de la banlieue toulousaine.
D'accord, et ça fait du coup à peu près 1 an que tu es en Ariège, et tu y avais déjà été avant?
Ben oui, je viens en vacances depuis que je suis né ici, à Orgibé, pas loin d'ici, et donc ça m'est un peu familier.
Ok, et qu'est-ce que tu en penses de cet endroit?
Alors au bout d'un moment, j'étais un peu, je me méfiais un peu parce que je me suis dit, je me disais, c'est perdu, je vais un peu m'ennuyer ici. Et pas du tout, au contraire, je préfère largement l'Ariège qu'à la banlieue toulousaine parce qu'il y a les activités, l'activité dans les montagnes, la nature, franchement, c'est le kiff.
Ok, super. Et qu'est-ce que tu penses des gens en Ariège? Est-ce qu'ils sont différents des gens que tu as rencontrés en banlieue toulousaine?
Oui, c'est beaucoup moins prise de tête ici, c'est plus simple. Mais après, de grandes différences, non. Enfin, c'est plus convivial, on va dire.
D'accord. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
De rien.
Et voilà, c'est donc la fin de notre première émission de l'année dans laquelle nous avons pu en savoir un peu plus sur l'histoire de notre beau département. On remercie Françoise Estac et les élèves de l'école primaire de Caumont pour leurs interventions. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025.
Je m'appelle donc Françoise Estac et je suis née en 57, pardon.
Et voilà, c'est donc la fin de notre première émission de l'année, dans laquelle nous avons pu en savoir un peu plus sur l'histoire de... Ah putain, non !
Par contre, c'était mieux, t'as bien
compris. Ouais.
C'était bien. Oui, on recommence.
Vous êtes prêts pour un voyage au plein cœur de nos montagnes ?